Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Aujourd'hui, je vous emmène à Salem, une petite ville aux États-Unis où va se dérouler une histoire de violence, mais surtout une histoire de sorcellerie.
Au cœur de l'histoire.
Des milliers de femmes et d'hommes sont descendus dans les rues de France ce samedi pour protester contre les violences sexistes et sexuelles.
Je pense que c'est un sujet qui est aujourd'hui un sujet majeur de société et donc c'est pour ça que je suis là.
Tant qu'une femme sera victime de violences, c'est toutes les autres femmes qui ont peur.
Dénonciation des violences faites aux femmes, dénonciation de l'inégalité, on va y réfléchir aujourd'hui en prenant un exemple qui est souvent pris par les féministes pour montrer la domination masculine, notamment aux États-Unis. C'est une histoire qui se déroule dans une petite ville de la côte Est, non loin de Boston, dans le Massachusetts. Cette ville s'appelle Salem et c'est Salem Village qui va être le théâtre d'événements tout à fait étonnants. On remonte en 1692, c'est l'hiver, il fait froid, et c'est là que va se déclencher la première chasse aux sorcières américaines. Notre histoire commence quelques années plus tôt. Une des personnalités éminentes de Salem, John Putnam, décide d'entreprendre la recherche d'un nouveau révérend. Un nom lui revint, Samuel Parris. C'était un homme bien éduqué. Il avait suivi l'université d'Harvard. On entendait parler de lui jusqu'à la Barbade, où il s'était installé. Putnam prit contact avec lui et progressivement, après quelques négociations en 1689, l'assemblée paroissiale de ces puritains américains décida d'embaucher Samuel Parris comme nouveau révérend. Parris était marié. Sa femme s'appelait Elizabeth Eldridge et leur petite fille s'appelait elle aussi Elizabeth. La famille devait aussi récupérer une nièce, Abigail, qui vivait avec eux. Pendant qu'il était à la Barbade, Samuel Parris avait embauché pour lui servir à la maison une domestique. C'était une native de la Barbade, mais elle était amérindienne, car il faut se souvenir qu'encore en ce dernier tronçon du XVIIe siècle, il existait dans les îles Caraïbes des survivants indiens. C'est donc ainsi que la petite famille, en 1689, débarque dans cette ville de Salem. Salem, laissez-moi vous le décrire. C'est une communauté de puritains qui se sont installés dans les parages à partir de 1629. Les terres sont plutôt belles, il y a de la forêt, des parties un peu plus marécageuses parce que le terrain débouche sur la baie du Massachusetts. Et tout au loin, on voit se profiler la mer. Salem se divise en deux parties. Il y a la partie fluviale qui va vers l'océan, le port, la ville même de Salem, et puis une autre partie, un peu moins connue, mais pourtant où nous allons nous attarder puisque c'est là que nos héros vont s'installer. Il s'agit de Salem Village. Salem Village, c'est un bien gros mot en réalité. Il s'agit d'un ensemble de fermes, parfois disparates, avec un petit centre-ville. L'ensemble regroupe environ, pense-t-on, 275 hommes en âge de voter ou en tout cas en âge de participer aux assemblées de justice du pays. Et c'est là que le nouveau pasteur s'installe dans une ferme. Il a un terrain qu'il doit aussi exploiter pour pouvoir vivre au milieu de cette communauté rurale. À l'hiver 91-92, la situation de Samuel Parris est délicate. Tout a commencé à cause d'une histoire banale. Il a voulu, pour améliorer le temple, acheter des chandeliers en or. Un certain nombre de paroissiens ont trouvé que cette dépense était vraiment superflue, qu'elle reflétait une certaine prétention de la part du pasteur de vouloir honorer Dieu avec des objets aussi chers. Oui, je ne vous l'ai pas dit. Les puritains ont une relation complexe à l'argent. Ce sont des gens qui refusent l'ostentation, qui s'habillent généralement de couleurs sombres et qui ont, avec le décorum catholique, une relation tout à fait opposée. Pour eux, la vraie foi est intériorisée. La vraie foi se partage en communauté, mais ne doit pas se montrer avec prétention, avec exhibition. C'est pourquoi les paroissiens ont décidé, en désaccord avec lui, de suspendre sa rémunération. La situation de la famille est donc délicate et sans doute pour les petites filles, Elizabeth et Abigail, les journées doivent être longues. Un jour d'hiver, les deux enfants s'amusent On peut les imaginer dans une grange, à l'abri, pour profiter de quelques recoins de chaleur, en train de discuter, de se monter la tête par rapport aux écritures. « Tu crois qu'on peut deviner l'avenir ?» a dû dire l'une à l'autre. « Tu crois qu'on peut savoir ce qui arrive aux gens ?» On imagine deux enfants en train de se monter la tête et de jouer ensemble, et non loin, ben, la servante, Tituba, qui va qu'aux tâches domestiques et qui emporte avec elle ce parfum de mystère de l'autre, de l'étranger. Des étrangers, il n'y en a pas si loin que ça, de la ville de Salem. Mais des étrangers un peu particuliers avec lesquels les habitants de la ville sont régulièrement en guerre. Ce sont les Indiens d'Amérique. Depuis l'installation des colons au début du XVIIe siècle, il y a des attaques incessantes, des combats sanglants. Une partie des colons a même parfois été enlevée, torturée, avant d'être libérée. La présence des Indiens alentour est un peu considérée comme la menace d'un siège. Ce sont des étrangers hostiles, et souvent d'ailleurs, dans les sermons des différents pasteurs de la région, ils sont considérés comme le mal absolu, l'incarnation du diable. Tituba représenterait en somme une sorte de version apprivoisée de cette violence diabolique. Les deux petites filles se tournent vers la servante et on les imagine la questionner, lui demander des informations sur son propre culte. Et Tituba se prête à ce jeu. Elle leur dit qu'elle peut deviner l'avenir, un savoir dans lequel on peut même parvenir parfois à peser sur les autres, à orienter leur vie, à faire de la magie. L'affaire aurait pu en rester là. Quelques jeux dans une ferme l'hiver, tandis qu'il fait froid dehors, entre trois personnes qui passent leur journée ensemble. Mais les deux petites filles se montent tellement la tête que leur comportement va changer. Par moments, elles ont des hoquets. À d'autres moments, elles parlent dans une langue bizarre que personne ne comprend. Encore une autre fois, l'une d'entre elles marche en traînant la patte, comme si elle était boiteuse, comme si elle avait été frappée par une quelconque malédiction. Les parents commencent à s'inquiéter. Et si les petites étaient tombées malades ? Samuel Parrish décide donc de les emmener chez le médecin. Le médecin, évidemment, ne sait pas de quoi il s'agit, ne voit pas trop comment résoudre la question. Et pire, il émet une hypothèse. Et s'il y avait derrière tout cela une affaire d'envoûtement ? Et s'il y avait derrière tout cela quelques diableries ? Et le révérend père Parrish est tout prêt à entendre ce type de raisonnement. Lui-même croit dans la force de Dieu, dans la puissance de la foi. Lui-même croit dans les révélations des Écritures. Or, les Écritures le disent, le diable existe. Il est donc possible qu'il agisse dans le monde d'ici-bas. Et c'est ainsi que cette histoire va complètement changer de nature. Parrish se tourne donc vers d'autres pasteurs des environs. Il faut prier pour faire reculer le démon. On imagine les pasteurs agenouillés, tout à leur foi, tout dans leur piété, priant puissamment pour repousser le démon. Mais rien ne se passe. Au contraire, deux nouvelles petites filles semblent avoir été frappées par la malédiction. Elizabeth Hubbard et Anne Putman, une des filles de la grande famille des Putman, ces fameux employeurs qui étaient allés chercher Samuel Parrish. L'affaire prend alors une toute autre ampleur. Le shérif est informé. Il y a des représentants qui sont envoyés pour questionner les enfants. Que s'est-il passé ? On les presse de répondre. Pour les petites filles, la situation est extrêmement délicate. Car si elles avouent avoir fait quelque chose d'interdit, elles risquent d'être punies. Or, prévoir l'avenir est strictement interdit dans les évangiles selon les puritains. Et donc, les enfants ne veulent pas avouer qu'elles ont essayé de prédire l'avenir, qu'elles ont péché. Donc, il leur faut trouver une autre solution. Elles s'agitent, elles s'hystérisent, et finalement, l'une d'entre elles, Elizabeth Parrish, finit par dénoncer la bonne Tituba. C'est elle qui serait à l'origine de toutes ces malédictions, c'est elle qui sans doute aurait fait rentrer le diable dans la communauté. Premier interrogatoire, première accusation. Le cadre est posé et désormais déjà, on commence à parler de la malédiction qui frappe le village. Écoutez ce qu'en dit un pasteur de Boston, Deoda Lawson, au tout début de la crise,
Vous devez donc vous humilier profondément et vous asseoir dans la poussière, considérant le signe que vous a fait la main de Dieu en choisissant cet endroit, ce pauvre village, pour premier siège de la tyrannie de Satan, et en faire, comme c'est le cas, le rendez-vous des diables, lieu où ils rassemblent leurs forces infernales. Humiliez-vous aussi devant le fait que tant de membres de cette église de notre Seigneur Jésus-Christ soient sous l'influence de la malice de Satan, et que d'autres soient sous le coup de la terrible accusation d'être les instruments de Satan dans ses entreprises maléfiques.
Ces jeunes filles, elles accusent des personnes de les avoir mis dans cet état d'hystérie, dans cet état de faiblesse. Et les noms qu'elles ont donnés, il y a eu bien sûr Tituba, nous y reviendrons. Mais elles accusent d'autres personnes de la communauté de Salem village. Il y a Sarah Good. Sarah Good, c'est une mendiante, la fille déshéritée d'un aubergiste français qui, quand on lui fait un don, murmure entre ses dents. Que murmure-t-elle? Une malédiction? Cette femme est considérée immédiatement comme suspecte, sans doute à cause de sa marginalité. Et puis elles accusent aussi une autre femme, Sarah Osborne. Oh, c'est une vieille dame, alitée, mais une vieille dame qui a suscité la réprobation générale en captant l'héritage des enfants de son premier mari. Ce sont les premières accusées, Sarah Good, Sarah Osborne et Tituba. Commençons par Tituba. Tituba est donc arrêtée, questionnée, interrogée. Voilà comment elle répond à ses juges.
Le magistrat lui demande qui tourmente les enfants. Elle répond « Le diable, pour ce que je sais ». Le magistrat reprend « Avez-vous déjà vu le diable ?» Elle continue « Le diable est venu me trouver et m'a demandé de le servir. Un grand homme aux cheveux blancs, tout de noir vêtu, m'est apparu à plusieurs reprises. Il m'a dit qu'il était Dieu, que je devais croire en lui et le servir 6 années durant, et qu'il me donnerait plein de jolies choses. »
Au moment de cette confession, nous sommes le 1er mars 1692. Une précision s'impose. On ne peut pas faire de procès tant qu'une commission légale n'a pas été nommée par le gouverneur. Or, le gouverneur du Massachusetts n'est pas encore revenu d'un long voyage en Angleterre. Donc, il faut que les personnes emprisonnées attendent leur jugement. Évidemment, cette attente est propice au développement de nouveaux fantasmes, au développement de nouveaux délires, et c'est ce qui se passe à Salem. L'hystérie collective se développe. Le 19 mars, Anne Putman accuse Martha Corey et Rebecca Nurse d'être des sorcières. Les deux femmes ne sont pas des marginales. Désormais, ce sont des personnalités élevées socialement, connues pour être honnêtes et puritaines, qui sont frappées d'interdiction. Le 11 avril, John et Elizabeth Proctor sont à leur tour arrêtés. Elizabeth est enceinte, mais elle n'échappera pas à la détention. Le 30 avril, une plainte est déposée contre l'ancien pasteur de Salem, le révérend George Burroughs. À la mi-juin, 70 personnes ont été arrêtées et se retrouvent dans les différentes prisons de la région, à Ipswich, à Salem, à Charleston, à Boston. Un engrenage incroyable se met en place. Désormais, chacun doit accuser une autre personne pour avoir l'air innocent. Et c'est tout le mécanisme de la chasse aux sorcières. Les accusations s'étendent rapidement. Toute la région semble frappée d'hystérie. Certains prétendent avoir des visions. D'autres ont vu des bêtes rentrer dans leur chambre. Certaines sont montées sur leur lit. Bref, le démon rôde. Il est non seulement dans les rues, mais désormais, il est dans les maisons. C'est dans ce contexte que le 14 mai au soir, une frégate, le Nonsuch, en provenance de Londres, arrive devant le port de Boston. À son bord, il y a deux personnalités attendues avec impatience et angoisse. D'un côté, le nouveau gouverneur royal, Sir William Phipps, et de l'autre côté, le président de l'université d'Harvard, pasteur de la seconde église de Boston et depuis 4 ans, ambassadeur extraordinaire du Massachusetts auprès de leur majesté, Increase Matter. Les deux hommes qui viennent d'arriver ignorent tout des événements survenus à Salem. On leur en fait un rapport précis, minutieux. Le président du tribunal, c'est William Stoughton. Il a été nommé spécialement par le gouverneur Phipps. 9 assesseurs soutiennent William Sutton dans sa recherche de la vérité. Le 2 juin s'ouvre le procès en sorcellerie. Il faut se rappeler qu'au XVIIe siècle, les fonctionnaires publics s'inscrivent dans un cadre où la croyance est la loi. Le christianisme a force de loi. En tout cas, pour les puritains, la loi dépend directement de la volonté divine. Pour William Sutton, il n'y a que deux moyens pour déterminer si une personne s'est effectivement livrée à des actes de sorcellerie. Le premier est le plus simple. Il s'agit de témoignages et d'accusations. Mais il existe un deuxième moyen de preuve, appelé la preuve spectrale. Cela pourrait paraître scientifique, mais ça ne l'est pas du tout. Il s'agit de repérer, à travers le comportement de l'accusé, si quelque chose laisse transparaître un élément démoniaque. Un élément démoniaque, ça peut être une griffure sur le corps, un bouton, une marque, un saignement, un tremblement à la vue de son accusateur. Bref, autant de comportements qui sont soumis à la discrétion du magistrat. Et c'est ce qui explique que les procès en sorcellerie aient cet aspect si subjectif, si arbitraire. Pour bien comprendre ce qui va se jouer dans cette salle de tribunal, écoutez cet extrait d'une lettre datée de cette époque d'un contemporain qui a assisté et qui veut pointer le rôle d'Abigail Williams et de son amie Anne Putnam pendant le procès, la manière dont elles identifient les accusés.
Il y avait parmi les affligées deux filles d'environ 12 ou 13 ans qui voyaient tout ce qui se faisait et que l'on appelait de ce fait les visionnaires. Elles disaient « Maintenant, ils ou elles » ou « ils », car ils pouvaient être plusieurs, « vont mordre ou pincer l'Indien ». Et tous ceux qui étaient présents au tribunal voyaient les marques visibles sur les bras de l'Indien. Elle disait aussi « Regardez, regardez, regardez !» Ils vont lier les jambes d'un tel ou d'une telle. Et tous ceux présents voyaient la personne dont elle parlait s'écrouler sur le sol et ses jambes tordues d'une extraordinaire manière. « Maintenant, disait-elle, nous allons tomber. » Et immédiatement, 7 ou 8 des affligés tombaient en poussant des cris et des clameurs terribles.
Lors de ce premier procès, du début juin, Bridget Bishop, une des femmes accusées, est condamnée à mort et exécutée. Puis, les sentences se suspendent. Le procès ne reprend que le 30 juin. Commencent alors des condamnations par vagues et des exécutions qui les suivent immédiatement. Le 19 juillet, 5 autres accusés sont pendus, dont Sarah Good, Rebecca Nurse et Sarah Wilds. Le 5 août, un autre groupe de personnes est jugé. Il y a parmi eux désormais des hommes. Dans ce groupe se trouve le pasteur George Burroughs. Burroughs était l'ancien pasteur de Salem. Il était parti dans une autre paroisse. Mais désormais, il est regardé par les habitants de la ville comme l'instigateur de toute cette démonomanie. C'est lui qui serait responsable de la présence du diable. Le 19 août, après sa condamnation, Burroughs est emmené vers le lieu d'exécution. Il tente alors de prendre la parole et de se défendre. Devant la foule calme, il dit avec une voix forte et claire, sans marquer la moindre hésitation, qu'il est innocent. Sur le visage de nombreux spectateurs coulent les larmes. Certains se souviennent qu'il les avait accompagnés dans des moments dramatiques. On pourrait penser que cette exécution va être suspendue. Il y a une sorte de silence gêné. C'est à ce moment-là que Cotton Mather, qui avait assisté au débat sans prendre part aux décisions, va intervenir. Cotton Mather, le fils d'Increase Mather, c'est-à-dire le fils d'un des principaux conseillers du gouverneur du Massachusetts, a un poids extrême. Ce qu'il dit aux spectateurs ce jour-là, c'est qu'il faut se méfier des illusions du diable, que le diable peut prendre même parfois l'apparence de la vérité pour émouvoir et que donc il ne faut pas trembler, puisque l'homme a été jugé coupable, il doit être exécuté. C'est ce qui se passe. Avec l'exécution de William Burroughs, l'affaire des sorcières de Salem atteint son apogée. Mais déjà, le doute commence à s'immiscer parmi les élites de la Nouvelle-Angleterre. Et si tout cela était allé trop loin? Si l'ensemble des hommes avait été frappé d'une illusion? Écoutez par exemple ce que Thomas Brattle, un marchand bostonien, dit de l'affaire.
« Je ne peux que m'étonner que des juges, que je tiens pour des hommes bien intentionnés, aient prêté l'oreille au diable jusqu'à lancer des mandats d'amener et appréhender des gens rien que son autorité. La liberté fut toujours considérée comme le grand privilège d'un Anglais, mais il est sûr que si on laisse le diable déposer contre nous et qu'on retienne son témoignage pour nous saisir et nous appréhender, alors nos libertés disparaîtront. Nous serons des fous si nous nous glorifions de notre liberté. Il s'en prend directement à William Staton, le président du tribunal est plein de zèle pour cette procédure et il dit qu'il n'a aucun doute sur tout ce qui a été jusqu'ici accompli par cette cour. J'honore et révère hautement la sagesse et l'intégrité de ce juge, et j'espère que cette affaire ne diminuera pas la vénération que je porte à son honneur. Cependant, je dois dire ma grande crainte quand, dans cette affaire, la sagesse soit détachée de son honneur.
Le doute est allé si loin que même les personnalités qui avaient commissionné le tribunal remettent en cause une partie de leur analyse. Dès le mois d'octobre, Increase Matter, l'un des principaux conseillers du gouverneur, commence à penser que le mode de preuve spectrale ne doit plus être utilisé dans les tribunaux américains. Mais il n'empêche, les procès de Salem auront fait 19 morts par pendaison, 2 par torture et 5 autres ont péri durant leur détention. Samuel Parris a survécu à cette affaire. Après quelque temps, il est allé vivre ailleurs et a quitté la ville de Salem avec sa fille Elisabeth, qui n'a jamais exprimé de remords sur les dénonciations qu'elle avait faites. Tituba, elle aussi, a survécu. Sa peine de prison a été rachetée par une famille, elle est rentrée à leur service, on perd sa trace. Mais comment expliquer le drame des sorcières de Salem? Il y a d'abord une explication très scientifique. Ceux qui ont pensé que cela venait d'une toxine, de l'ergot de seigle, le seigle beaucoup cultivé dans la région, et cette toxine, proche du LSD, donne des hallucinations. Il y a ensuite l'hystérie. L'idée que ce sont quelques femmes qui se sont en quelque sorte intoxiquées entre elles pour déboucher sur ces dénonciations. Il y a enfin ce cocktail, ce mélange de peur et de foi qui fait que les relations sociales se sont imbriquées ici pour créer un engrenage fatal où chacun dénonçait l'autre pour mieux s'en sortir ou pour mieux gagner sa place dans la communauté. Quoi qu'il en soit, l'affaire de sorcières de Salem est rentrée dans l'imaginaire américain. Au début des années 50, Arthur Miller, un tragédien, un écrivain, a écrit une pièce racontant ce méfait. Cette pièce a servi de modèle pour comprendre le modèle de dénonciation qui se déroulait pendant la chasse au communisme dans l'Amérique des années 50, pendant le McCarthyisme. Et c'est ainsi qu'Arthur Miller a donné naissance à une expression qui est rentrée dans le langage courant, la chasse aux sorcières. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Ce podcast est une création Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda. Il a été préparé par Simon Maisonneuve, réalisé par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.